Bienvenue à tous sur le cours de F6 KGL. Et ce soir, donc, on voit la partie technique, les quelques questions d'examen sur la partie technique et des examens blancs. On va faire trois séries, une sur chacun des logiciels examens. Petit rappel du déroulement de l'examen. Il y a 20 questions, il y a 10 familles de questions. Dans le logiciel ANFR, alors qui sont plus ou moins homogènes, je dirais plutôt moins que plus, puisqu'on arrive quelquefois à avoir beaucoup de questions sur le même thème. Petit détail, mais qui a son importance, à partir du 7 juin prochain, le calcul des points est modifié, et donc il y aura la suppression du point négatif en cas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que il n'y a que les bonnes réponses qui donnent un point, et quand on ne répond pas ou quand on donne une réponse fausse, on a 0 point. Et comme on a un point par bonne réponse et qu'il y a 20 questions, la note elle est calculée sur 20, alors qu'auparavant la note était calculée sur 60. Et évidemment, il faut toujours obtenir la moyenne. Donc la moyenne avec une note sur 20, c'est 10 sur 20, alors qu'auparavant, c'était 30 sur 60. L'idéal pour s'entraîner à l'examen, ce sont les logiciels examen. On va les voir un par un. Mais déjà, première chose, c'est qu'ils utilisent tous la même base de données de questions. Que ce soit les images, les questions, les réponses et les corrigés, évidemment c'est la même base de données. Et cette base de données elle est mise à jour tous les trimestres, et donc là la dernière mise à jour date du 1er avril. Même si c'est la même base de données, chaque version a ses propres fonctionnalités. Et après c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. À mon sens, à mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est la version web qui me semble la mieux adaptée. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser la version Android pour réviser tout simplement chez vous sans être derrière l'ordinateur. Et puis sinon, il reste la version Windows qui est la version, l'originale. Elles ont à peu près toutes les mêmes fonctionnalités, on va les voir. Ici, je vous ai mis les liens, et on va de toute façon, quand on va aller dessus, je vous expliquerai ça plus en détail. Donc le logiciel examen, la version Windows, elle est hébergée sur le site du Radio Club, donc de F6 KGL. Auparavant, c'était sur le site de René F5AXG, qui est décédé en 2013, donc ça va faire quand même un bout de temps, hein, ça va faire 8 ans en septembre. Le site est fermé depuis mai 2019, et donc c'est, comme j'avais j'ai récupéré, alors pas les sources, mais le programme d'installation et la base de données, c'est moi qui la gère, donc je sais la mettre à jour. Le tout est venu maintenant sur le site de F6 KGL, sur cette adresse-là. Dans cette version, donc dans la version Windows, on ne pourra pas changer le calcul des points, parce que je n'ai pas les sources du logiciel, et donc difficilement modifiable. Alors à moins que quelqu'un sache faire un patch pour afficher autre chose, mais j'y crois pas trop parce que tout est dans le même fichier, donc ça me semble un peu compliqué de séparer ces fonctions. Voilà, sur la page examen du site internet, on a donc la notice d'installation et d'utilisation du logiciel, le programme proprement dit, et la base de données. Donc il faut d'abord installer le programme, puis la base de données des questions, et éventuellement télécharger régulièrement, enfin tous les trimestres, la nouvelle base de données de questions. Voilà. Donc ça, c'est pour la version Windows. Ensuite, oui, alors la base de données, il faut faire attention, il faut la décompresser au même endroit où se trouve le logiciel. Si vous n'avez pas installé le programme de manière standard, si vous avez voulu l'installer sur un autre lecteur dans un autre répertoire, il faut faire attention à ce que la base de données soit au même endroit, évidemment, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, en 2008, on a eu une version web développée par Valentin, F4HVV. Cette version est hébergée sur les sites du REF. C'est la même base de données, encore une fois, qui est utilisée que pour l'examen. C'est une extraction Excel que je mets à disposition sur le site de Valentin et pour lequel il m'a donné l'accès. Et donc on va voir toutes ces possibilités. Il y a une petite présentation du logiciel que j'avais faite qui est ici. Alors attention, c'est une version full web, ça veut dire qu'il n'y a rien sur votre machine, si ce n'est que toutes vos réponses, enfin tout l'historique entre guillemets qui va s'afficher quand vous poserez la question, c'est dans l'historique de votre navigateur. Donc le jour où vous faites le ménage dans l'historique de votre navigateur, bah, vous risquez de perdre toutes ces données-là. Donc voilà, faites attention si vous voulez les garder, ces données, que de ne pas les effacer, parce que sinon vous n'avez plus rien. Et en tout cas, rien n'est sur le cloud, rien n'est sur les serveurs du REF, je vous rassure. On verra dans les corrigés, mais on a la possibilité d'accéder directement au cours en ligne. On verra comment ça marche. Et dans le calcul des points, pour le moment, la note elle est donnée sur 60, mais le logiciel va être mis à jour prochainement pour faire une note sur 20. Et vous pouvez dès à présent décocher la... Il y a une case dans ce coin-là où vous pouvez cocher ou décocher le malus pour une mauvaise réponse. Vous avez intérêt, si vous passez l'examen après le 7 juin, à décocher cette case pour faire en sorte que les calculs soient bons. Alors la note, elle ne sera pas sur 20, elle sera sur 60. Et encore une fois, ça ne change pas grand-chose et ça sera corrigé prochainement. Et enfin, tout dernièrement, là, c'était l'été dernier, où Maxime, F4IQN, un membre du Radio Club de Neuilly-sur-Marne, a développé cette version Android. Et donc, maintenant, cette version, elle est disponible sur Google Play. Donc, je vous ai mis le lien ici, mais si vous tapez examen avec un apostrophe 1, sur Google Play, vous allez tomber tout de suite sur cette application. Elle reprend un peu l'ergonomie, enfin même beaucoup l'ergonomie de la version web, et elle a il y a quasiment toutes les fonctions, si ce n'est la visualisation de la base de données qui n'est pas accessible dans la version Android et uniquement dans la version web. Voilà. Donc, et même chose, par contre, le cours en ligne, faites attention, parce que, je ne sais pas où on est, Maxime, il devait faire en sorte que le cours en ligne soit téléchargé en même temps que la base de données, je ne sais pas si c'est fait, mais en tout cas, quand je l'ai testé, ça m'inquiétait un petit peu, parce que quand on clique sur cours en ligne, ça va quand même télécharger le cours en ligne à chaque fois. Donc, si vous n'êtes pas en Wi-Fi, votre forfait risque de morfler un petit peu, parce que le cours en ligne, c'est quand même à chaque fois 6 mégas. Voilà, donc il faut faire attention. Encore une fois, le nouveau calcul, c'est-à-dire avec une note sur 20 points, ça sera disponible voilà, début juin. Quand précisément, je ne peux pas vous le dire, mais voilà, ça sera fait. Et en attendant, comme pour la version web, bah, il suffit de décocher le malus pour une mauvaise réponse. Une fois que vous avez passé l'examen, et ben en fait, ce qui serait très bien, c'est de nous faire parvenir, de me faire parvenir un compte-rendu des questions qui vous ont été posées, et notamment des questions que vous n'auriez pas vues dans le logiciel examen. Ça permet comme ça d'ajouter de nouvelles questions et de mettre à jour la base de données, parce que régulièrement, voilà, il y a de nouvelles questions. Ces comptes rendus sont, je les ai tous mis sur Internet, sur un Google Group, donc qui s'appelle Examen-Radio Amateur, donc qui sont tous en libre service, entre guillemets, vous pouvez regarder. Et sinon, tous ces comptes rendus sont compilés dans un PDF qui est sur le site du Radio Club. Voilà, et donc c'est toutes les questions d'examen qui ont été recensées depuis l'origine, donc depuis 2003. Donc ça fait quand même un certain temps, et en tout, le document, toutes les questions qu'on a recensées, là il y a quand même 740 questions, et du coup ce PDF il fait 99 pages. Et toutes ces questions sont triées dans l'ordre du cours de F6KGL. Voilà. Et évidemment, bah, quand il y a des comptes rendus qui ne sont pas suffisamment précis, bah, je ne peux pas faire de questions. Et c'est un peu dommage quand notamment on me remonte, il y avait un synoptique et je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Voilà, avec ça, ça n'aide pas beaucoup pour créer de nouvelles questions. Voilà, donc encore une fois, ce qui est important, c'est de remonter le maximum d'informations, non seulement sur les questions posées, mais surtout sur les réponses proposées qui sont fausses. Parce que ça permet comme ça d'adapter complètement à la réalité de l'examen. Enfin, quand c'est des questions techniques et de calcul, je sais faire des réponses fausses. Quand c'est plus de la littérature, j'ai un peu plus de mal. Évidemment, ces trois versions sont à utiliser sans modération. L'objectif, c'est d'obtenir une note au moins de 13 sur 20, voilà, pour être sûr d'être sûr le jour de l'examen, parce que encore une fois, je suis pas certain d'avoir toutes les questions. Donc voilà. L'objectif aussi, c'est d'être en pays de connaissance le jour de l'examen, sachant que ça se présente beaucoup comme à l'examen. L'idéal, si vous voulez, vous allez sur le site ANFR, il y a ce fameux logiciel d'entraînement qui n'est pas réellement un logiciel d'entraînement, puisque la base de données, il doit y avoir en tout une centaine de questions entre les questions de réglementation et les questions de technique. Donc c'est vraiment très limité. En revanche, c'est exactement la même ergonomie. Donc si vous avez un peur de ne pas vous y retrouver, bah, vous faites quelques séries sur le logiciel ANFR, mais vous allez voir que vous allez retrouver très rapidement les mêmes questions. Encore une fois, pensez à décocher le malus pour une des mauvaises réponses dans les versions web et Windows à partir du 7 juin. Et puis pour la version Windows, bah, il va falloir recalculer les points avec la nouvelle méthode, mais vous allez voir l'affichage, on le voit tout de suite puisque les points négatifs ils sont affichés, donc en fait il suffit de retirer les points négatifs et on s'y retrouve assez facilement. Voilà, donc durée de l'épreuve 30 minutes, 20 questions, on va y aller, on va commencer par la version Windows. La version Windows que voilà. Donc, alors je vous passe pas tout ce que l'on peut faire notamment gestion des erreurs, ça permet de mettre en mémoire quand on a des, comment dire, quand on n'a pas compris une question. Voilà, comme ça on peut revenir, il y a une base de données des questions sur lesquelles, là c'est quelques questions que j'avais sélectionnées pour montrer comment ça fonctionnait. Donc comme ça on peut sélectionner la question et quand on double-clique dessus, on va directement dessus. Donc, je ne sais pas si ça marche en... Ah bah oui, ça marche pas parce que ça fait des pop-up et du coup on les voit pas sur la webcam, enfin sur la webcam, sur le logiciel. Donc bon, c'est pas grave. Les questions posées, c'est la base de données des questions. Non, c'est les questions qui vous ont été posées. Et visu des questions, c'est l'intégralité de la base de données. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va démarrer un questionnaire. On démarre un questionnaire. Alors ça ne s'affiche pas à l'écran, c'est normal. Je choisis donc le nom du candidat, c'est obligatoire. Le type de l'épreuve, c'est obligatoire aussi. Et je fais valider vos choix et commencer l'épreuve. Et là, ça va s'afficher. Yes! Alors, donc on a 30 minutes. Quelques questions. Donc, quelle est la puissance dissipée dans R? On peut se le faire à la calculette au fur et à mesure si vous voulez. Donc, j'ai 3 ampères efficaces, 7 volts maximum. Donc là, les volts maximum, il faut que je les transforme en volts efficaces, puisque pour appliquer ma loi d'Ohm, il faut que je sois partout en volts, enfin en valeur efficace. Donc que ce soit la tension ou l'intensité. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est transformer cette valeur ici, c'est 7 volts en valeur efficace. Donc je fais 7 volts multiplié par 0,707. 7 multiplié par 0,707. 707 égale 4,949, donc 5. Donc on va dire 5 volts efficaces pour faire simple. Et donc j'ai 3 ampères efficaces. Et donc la puissance, c'est P égale U multiplié par I. Donc ça me fait 15 watts. 3 fois 5 fois 3, 15. Et d'une. Comment mesure-t-on un courant HF? Avec un volumétre à galvanomètre, avec un voltmètre à galvanomètre, avec un volumétrateur, avec un ampèremètre thermique ou avec un ampèremètre à feuille. Alors là, moi je vais passer parce que c'est le genre de truc, je pense avoir la réponse, mais je vais passer. Parce que ça, c'est quand même des questions tordues. Donc, pour éviter, quoi qu'à la limite, maintenant, on peut répondre ce que l'on veut, puisque on part du principe qu'il faut répondre à tout, y compris n'importe quoi. Donc, je vais mettre un volumétrateur. Quel est le nom de l'étage repéré par le point d'interrogation ? Donc, le point d'interrogation est ici. Donc déjà, ça, dans ce sens-là, déjà, il y a un haut-parleur, donc il y a un gros indice comme quoi ce serait un récepteur. Et juste avant le haut-parleur, c'est l'ampli audio. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme autre réponse? Le détecteur de produit, non. Détecteur de produit, c'est un type de démodulateur. Un circulateur, non, pas vraiment. Ça serait, un circulateur, ça ressemble un peu à un relais. Un filtre passe haut, le filtre passe haut, enfin passe haut, ou le filtre tout court, il serait plutôt ici à l'entrée. Et donc il y a guère que l'amplificateur AF qui est justement là. Alors, quelles sont les formules exactes? Alors, la formule 1 est-elle exacte? Alors, la formule 1, elle n'est pas bonne puisque la formule, c'est f égale à 1 sur 1 divisé par 2pi multiplié par racine carrée de LC. Donc, celle-là n'est pas bonne. La pulsation. Pulsation, c'est 2 fois pi fois f. Donc la 3 n'est pas bonne. Et donc la pulsation, elle est bien là. Donc c'est bien la 2. Et la 4, est-ce qu'on a bien p égale u2 sur r? Oui, ça fait partie, ça, des formules de base de la loi d'Ohm. Donc c'est les formules 2 et 4 qui sont bonnes. Alors faites attention ici, on peut aussi avoir des formules fausses. Et donc, dans ce cas-là, ça aurait été les formules 1 et 3. Qu'est-ce qui détermine le gain d'une antenne Yagi? La proximité d'un mur du voisin, la longueur du réflecteur, l'épaisseur des brins ou le nombre d'éléments directeurs. Alors, la proximité d'un mur du voisin, alors ça, c'est une question qui est relativement récente, hein, parce que là, quand on voit le numéro de la question, c'est une question qui est relativement récente, et quelqu'un qui l'a remontée, en donnant toutes ces propositions-là de mémoire, mais on sent bien que la NFR a un peu de mal à trouver des questions, des réponses perturbante. Et évidemment, la réponse, c'est le nombre d'éléments directeurs. C'est ça qui est important. L'épaisseur des brins ne va jouer que sur la bande passante. La longueur du réflecteur, ça va jouer sur le... Alors, ça va jouer un peu sur le gain, parce que quelque part, si la longueur n'est pas adaptée... le réflecteur va servir à rien, donc il y aura un peu moins de gain, mais ce qui est surtout la proximité d'un mur du voisin, ça, on s'en fout complètement, ça peut éventuellement avoir une incidence sur le gain en lui, sur la direction de l'antenne, enfin bon, c'est très tordu. En tout cas, ce qui est important là, c'est le nombre d'éléments directeur et réflecteur, hein, le nombre d'éléments parasites en règle générale. Les éléments parasites, ce sont donc tous les éléments en dehors de l'élément rayonnant. Quelle est la puissance réfléchie? Oula. Alors là, donc on a un ROS, donc il faut d'une part transformer le ROS en taux d'onde stationnaire et appliquer ça après à la puissance en watts. Alors là, c'est quelque chose d'assez tordu. Est-ce que je l'ai ? La transformation du ROS en TOS. Donc c'est, alors, de mémoire, c'est 2 plus 1, non, c'est 2 moins 1 divisé par 2 plus 1. Donc 2 moins 1, ça me fait 1, 2 plus 1, ça me fait 3, donc c'est 1 tiers. Donc j'ai un taux d'onde stationnaire de 33%. Le taux d'onde stationnaire pour obtenir derrière le taux de puissance réfléchie, il faut que je mette ça au carré. Donc, ce 33%, ou ce 1 tiers, devient donc 1 neuvième ou 11%. Et donc, 1 neuvième, si j'ai 9 watts, eh bien, la puissance réfléchie, c'est 1 watt. Un watt. Donc ça, c'est très tordu, Enfin, faut avoir en tête toutes ces formules-là. Donc, je comprends tout à fait que vous les ayez pas. Hein. Ça, quelle est la valeur maximum? Donc, j'ai une sinusoïde avec le 0 volt là. Ici, alors ça, 21 425, ça c'est une question. Ça c'est une question du cours, ça. Donc ça c'est une question, c'est moi qui l'ai faite. Donc c'est pas une question à NFR, celle-là. Enfin, la série des 21 000, c'est pas une question à NFR. Les séries à NFR, c'est 20 000 pour les comptes rendus et 22 000, donc 23 000, pardon, pour les questions de la base de données à NFR. Et donc 21 000, ça c'est moi qui l'ai inventé. Donc 21 425. Donc ici 13 volts efficaces. Et donc la valeur maximum ici, c'est cette valeur ici, crête. Et donc il faut multiplier ce 13 par 1,414. Donc je fais ça à la calculette. Hein, 13 multiplié par 1,414. Si je mets la virgule, ça sera mieux. Et donc, ça me fait 1,838. Donc, 1,838, 10 puissance 1, pardon. Donc, 18,38 ou 18,4. Question suivante. Capacité équivalente. Donc là, j'ai deux condensateurs qui sont en parallèle. Donc les valeurs, elles s'additionnent. Hein, c'est l'inverse de calcul des résistances. Donc mes deux valeurs s'additionnent. Ce sont toutes les deux des picofarades. Donc 470 plus 430 picofarades, ça m'en fait 1000. Et 1000 picofarades, c'est 1 nanofarade et non pas 1 microfarade ici. Ou 100 picofarades pour ceux qui auraient oublié un zéro. Et là, ce 249 picofarades, c'est au cas où vous auriez utilisé la mauvaise formule, c'est-à-dire produit sur somme. Alors, calculer R en série avec la bobine. Donc là, on a affaire à un circuit bouchon, dont le Q, ici, le coefficient de qualité, ici, est de 75. Donc ça veut dire qu'il n'est pas optimum, puisque pour qu'il soit optimum, il faudrait que Q soit infini. Et donc, que la résistance, ici, dans la bobine, soit nulle. Ce qui n'arrive jamais. Et donc, pour calculer cette valeur de résistance, il y a une formule. Alors, on la connaît ou on la connaît pas. Alors, la formule. Alors, je vous dis tout, hein, je suis en train de truander, je regarde le cours. Parce que je ne me souviens plus de cette jolie formule. Tac-tac. Ah ah! Que je retrouve la formule. À chaque fois, je reprends, je la connais, je devrais pas le dire, je la connais pas par cœur. Alors, 4, elle est où ? 1, toc, allez. Force. Alors, là voilà. Alors, la résistance, dans ce cas-là, c'est la racine carrée de L divisé par C, le tout divisé par Q. Alors, je vous passe ça à la webcam. On. Donc la racine carrée, donc seconde racine carrée. de, alors, L, 50 micros, 50 multiplié par 10 puissance moins 6, divisé par C, 50 picos, 50 multiplié par 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse et je divise le tout par Q, 75. Et ça, ça va me donner ma résistance en ohm. Ça me donne 1,333 10 puissance 1, donc 13,3 ohms. Il y a une réponse qui me va très bien, puisqu'il y a 13 ohms. Voilà. Donc c'est quand même très tordu, mais on y arrive. Alors ça, c'est une question de la base de données ANFR, hein, avec des dessins de ce type-là. On reconnaît la manière dont c'est dessiné. Donc, voilà. On retrouve réellement là les questions d'examen. Donc le graphisme est un peu plus beau qu'avec la base de données examen. Hein, c'est un peu plus pro. C'est normal. Et donc là, on demande le facteur de qualité à la résonance. Donc ça, c'est finalement, c'est l'inverse de ma formule. C'est l'inverse de ma formule que je viens d'utiliser. En fait, j'intervertis mon R et mon Q. Alors, facteur de qualité d'un circuit bouchon. Donc c'est la racine carrée de L divisé par C, le tout divisé par R. Donc je reviens sur ma calculette. Je vais pouvoir m'amuser à bouger. Alors, hop. Voilà. Donc là, c'est non pas 50, c'est 25. Mes picofarades. C'est 100 picofarades. Ok. Et ma résistance, c'est pas 75, c'est 5. Je fais exé. Et ça me donne donc 10 puissance 2, donc 100. Je reviens sur le logiciel et j'ai bien 100, donc tout va bien. Le code couleur des résistances. Alors, à connaître par cœur cette fameuse phrase. Alors moi j'ai la mienne, tout le monde a une phrase différente. Donc, ne mangez rien ou je vous battrai violemment grand bois. Alors, donc vous commencez par le N donc de noir et c'est le 0, donc vous ne comptez pas sur vos doigts le 0, sinon ça ne va pas marcher. Donc, pour arriver au violet, on fait « ne mangez rien ou je vous battrai violemment ». Vous en êtes au 7. Donc c'est 7. Le gris, c'est le 8. C'est le 8, donc ça commence par 7, 8. Et après, le rouge, c'est 2 zéros qui suivent. Donc c'est 7800 ohms. Voilà. Hop. Sur quelle vue d'oscilloscope est représentée une transmission en F3E? Donc ça c'est encore nous qui l'avions créé. Et en l'occurrence, c'était René. Puisque les 22 000, c'était lui qui les avait créés. Et donc, la F3E, ça serait quelque chose qui représenterait, qui serait présenté ici comme le synoptique 1, F3E, c'est de la FM, et par définition, la FM, c'est quelque chose dont dont l'amplitude est constante, quasi constante. Et donc, c'est le 1. Ici, c'est plutôt de la M, ici, c'est du Morse, et ici, peut-être de la B, lui, je ne sais pas. Donc plutôt ici de la BLU, morse, et ici AM. Voilà, ça serait plutôt comme ça que ça devrait être présenté. Et ici donc FM ou modulation de phase. La puissance dissipée par ces deux résistances est 100 watts. Quelle est la tension en U? Donc si j'ai 100 watts ici et que j'ai 1 ampère, quelle est la tension totale? Hein, alors, je vais faire ça avec un petit mes triangles de la loi d'Ohm. Donc je vais prendre ma caméra. Ici, j'ai la place pour mettre mes petits triangles de la loi d'Ohm. Donc le premier, c'est URI, PUI, PU2R, P égale U2 sur R. Alors là, j'aurais dû faire mes petits triangles. Et enfin, le dernier, c'est PRI au carré. Voilà, donc j'ai mes quatre triangles. Voilà, lequel va m'intéresser? Donc c'est un triangle où je vais avoir à la fois la tension, l'intensité, la résistance. Donc tension, intensité, résistance. C'est bien celui-là qu'il me faut. Donc c'est le premier. Comment je vais faire? Donc la tension totale, elle, ce qui va m'intéresser, c'est d'abord calculer la tension totale. Donc ça va être R multiplié par I. Donc je reviens ici sur mon logiciel. Mes deux résistances là en série, ça me fait 100 ohms. 100 ohms avec 1 ampère en tout. Ici sur la totalité, sur mes deux résistances, ici je vais avoir 100 100 watts. Hein, oula, j'ai été un peu trop vite là. J'ai été un peu trop vite. Bah si, j'ai 1 ampère. Si, donc mes 100 watts là, ils ne me servent à rien finalement. Puisque j'ai ici, en tout, j'ai 100 volts. Puisque ici, j'ai 100 ohms et 1 ampère. Ça me fait bien mes 100 volts. Et donc ici, j'ai 70 watts. J'ai 70 volts, puisque ma tension ici, elle est répartie au prorata de mes deux résistances. Donc ici, j'ai bien 70 volts. Et cette phrase complémentaire, la puissance dissipée par ces deux résistances est de 100 watts, c'est peut-être vrai, mais c'est complètement inutile. Et c'est plus là pour vous perturber, d'ailleurs j'ai été perturbé, mais si vous aviez juste à voir la question quelle est la tension U, c'était largement suffisant, et donc c'est 70 volts. Donc ça, quelquefois, on a des perturbateurs comme ça, qui vous disent, mais enfin, on vous donne trop d'indices, et du coup, c'est peut-être aussi perturbant. Que doit-on rajouter à un condensateur de 20 picofarad pour obtenir 25 picofarad? Donc si j'ai un condensateur de 20 picofarad, il faut que je rajoute en parallèle un condensateur de 5 picofarad. Et donc il faut que je le rajoute ici en parallèle. Et non pas en série. Ah, encore une question de René, 22. Sur quelle vue d'oscilloscope est représentée une transmission en A1A? Donc ça doit être la 4. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, donc c'est la 4. Et encore une fois, ce n'est pas une question NFR, hein, donc voilà. Mais qui pourrait très bien être posée par l'NFR. Comment s'appelle l'étage marqué point d'interrogation? Donc ça, on est typiquement dans un émetteur, puisqu'ici j'ai un micro, d'autant plus qu'ici j'ai un modulateur. Donc si j'ai micro plus modulateur, je suis dans le cas d'un émetteur. Donc après mon étage d'amplification RF, qu'est-ce que je peux trouver là? À part un filtre passe-bas, c'est à peu près tout ce que je peux trouver. En tout cas, ce n'est pas un filtre d'entrée, ça sera un filtre de sortie en l'occurrence, puisque c'est un émetteur. Et donc le mieux, c'est d'utiliser un filtre passe-bas derrière un ampli RF, au cas où l'amplificateur ne soit pas linéaire, ce qui permet de limiter les harmoniques. Et non, passe-bas, et la fréquence de coupure, c'est la fréquence d'émission. Calculer l'intensité. Donc ça, c'est une... on va le faire à la mano. Hein. Donc, alors... On va le faire de manière ici empirique, et quand on fera le corrigé, on va le faire par le calcul. De manière empirique, on voit ici, il va y avoir deux fois plus d'intensité qui vont passer dans la résistance de 5 ohms que dans celle de 10 ohms. Ça, c'est ma loi d'Ohm. Quand j'ai deux résistances comme ça qui sont en parallèle, je vais avoir une répartition de mon intensité dans ce système-là, avec ici deux tiers, un tiers. Ici, je vais avoir deux fois plus de courant qu'ici. Donc la répartition va être deux tiers, un tiers. Et quand j'ai 3 ampères ici, eh ben, je vais avoir ici 2 ampères et ici 1 ampère. Donc l'intensité sur cette résistance-là, ça va être 2 ampères. Et on verra quand on fera le corrigé, parce que c'est un peu plus long, de comment on le calcule avec la loi d'Ohm, avec tout ce que l'on connaît de la loi d'Ohm. Encore une fois, mon code couleur de résistance. Donc je recommence. Je ne compte pas le N. Ne mangez rien ou je vous. Donc ça, c'est le 5. 5. Le noir, c'est le 0, donc 5, 0, et le bleu, donc ne mangez rien ou je vous battrai, c'est 6, et donc il y a 6 zéros derrière, 50 et 6 zéros derrière, donc c'est 50 mégas. Trouver la proposition fausse, j'ai bien dit fausse, donc faut cocher celle qui vous choque. Un transistor bipolaire est constitué de deux diodes montées tête bêche, ça c'est vrai. La flèche du transistor permet de repérer l'émetteur, ça c'est vrai. La tension d'alimentation de l'émetteur d'un transistor PNP est plus positive que sa tension collecteur. Tordu. On va regarder la dernière. Le collecteur d'un transistor NPN doit être relié à une tension négative. Non. Il doit être relié à une tension positive. C'est l'émetteur qui est relié à une tension négative. Donc ça ne peut être que celle-là dont la phrase est très compliquée, mais qui est bonne. Nommez les trois pattes d'un transistor bipolaire. Donc, pattes A, B ou C, cathode, anode, gâchette, non, émetteur, basse, collecteur, oui, et ce n'est pas entrée, commun, sortie. On a fait donc, on a tout vu, donc, et vous voyez, on a traîné quand même, pas mal, on a pas mal papoté, et voilà, il nous reste encore 2 minutes 30, on va s'arrêter là. Voir le calcul du score, je pense qu'on devrait être bon. Êtes-vous sûr de vouloir que vous ne voyez pas là? Donc êtes-vous sûr de vouloir terminer l'épreuve? Je clique sur oui. Et là, voir le résultat. On a 3 mauvaises réponses. On va les regarder. Alors, on a répondu à tout. n'y a pas d'endroit où on n'a pas répondu. Vous voyez que finalement, avec le nouveau système, là, je n'aurais pas eu ces trois points négatifs. Donc, du 48 qui est affiché là, finalement, j'aurais obtenu 51, puisque j'ai trois points de plus que mes rouges ici qui apparaissent. Donc, j'aurais obtenu 51, puisque j'ai 17 bonnes réponses, et donc j'aurais eu 17 sur 20. Voilà, donc, je vais sauvegarder cette épreuve. Ok. Et on va pas faire, enfin, on va passer au corrigé maintenant. Donc, voir les réponses. Donc, c'est la 2, la 15 et la 19. La 2, on avait répondu n'importe quoi. Donc, la bonne réponse, c'est un ampère-mètre thermique. Et non pas un volumétrateur, comme on avait dit. On va voir la 15. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai écrit? 15. Qu'est-ce que c'est donc? Ah bah c'est A1A. J'ai du mal à lire parce que j'ai donc A1A, effectivement, c'est du Morse, donc c'est le numéro 3. Et dans ma tête, je disais A3E, AM. Donc voilà, j'ai mal lu la question. Ça m'apprendra. Et la 19. Trouver la proposition fausse. Alors, le collecteur d'un transistor NPN doit être relié à une tension négative. C'est faux ça pourtant. Ah bah alors ça, c'est une question assez récente. 817, c'est assez récent. Et je me suis fait avoir. Donc il y aurait peut-être une, je vais le noter, une réponse qui n'est pas bonne. Puisqu'un transistor, enfin ce qui est relié à une tension négative, c'est l'émetteur. NPN, c'est la tension de l'émetteur. Donc, automatiquement, le collecteur, il doit être à une tension inverse de l'émetteur, et donc à une tension positive. Alors, la tension d'alimentation de l'émetteur d'un transistor PNP est plus positive que sa tension de collecteur. C'est bien celle-là qui est bonne, puisque la tension d'alimentation de l'émetteur d'un PNP, donc qui doit être alimenté en positif, doit être plus positive que sa tension collecteur qui, elle, est négative. Donc là, il y a un problème sur cette question-là, je l'ai noté, pour revenir dessus sur la base de données des questions. En plus, celle-là était assez récente, donc voilà pourquoi elle n'est pas encore été... On ne m'a pas encore dit qu'il y avait un problème sur cette question. Les questions sur le chat. Alors... Si la réglementation est réussie, mais si niveau médiocre en technique, vaut mieux tout passer d'un coup. Délai d'un an, toute la technique semblerait dure. Alors, après, le problème, si vous n'êtes pas bon en technique, c'est que si vous passez l'examen et que vous obtenez la réglementation, ça va être compliqué de réussir l'épreuve de technique dans l'année qui suit. À mon sens, il vaut mieux, quand on n'est pas bon en technique, il vaut mieux bosser un maximum la technique et bachoter au dernier moment la réglementation. Ça, maintenant, chacun... ou alors on peut aussi espérer tomber sur une série simple. Mais quelquefois, ça ne marche pas. Hein. Et Voilà, et après, donc, effectivement, une fois qu'on a passé la réglementation et donc qu'on s'est fait du bourrage de crâne, on a peut-être l'esprit un peu plus serein et donc on se dit, bah, la technique, on a un an pour la passer. Maintenant, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut tenir la réglementation et la technique. Voilà. Donc à vous, enfin, et un an pour se préparer à la technique, c'est pas si énorme que ça. Je pense que c'est jouable, d'autant plus avec la nouvelle méthode de calcul des points. Voilà, donc on va passer à la deuxième version, la version web. Je ferme celle-là. Alors, la version web, elle est là, voilà. Là, voilà. Alors, si je mettais ça en route, ça serait mieux. Toc. Examen web, toc. Voilà. Donc, ça, c'est la version web. Alors, j'espère que j'aurai assez de place, parce que, vous voyez, c'est... Ça tient pas mal de place, donc il faut scroller en fait. Ce qui va m'intéresser là, c'est non pas les questions de législation, c'est la dernière fois que je suis passé dessus où j'ai coché ça. On va faire l'épreuve de technique. Si vous voulez, et c'est ça qui est très intéressant dans cette application, c'est que vous pouvez ne sélectionner que des thèmes. Donc si vous n'êtes pas bon, par exemple, dans les synoptiques, et ben vous cochez ici synoptique et vous n'aurez que des questions sur les synoptiques. Voilà, donc ça vous permet de bien travailler sur des points sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Ou au contraire, si vous voulez faire un carton avec l'électricité de base, les groupements de résistance et autres, bah, vous bûchez un maximum ces trucs-là. Vous savez que les synoptiques, bah, vous ferez un passe dessus. Et donc, bah, vous les décochez. Et puis comme ça, bah, vous travaillez bien pour le reste. Voilà. Donc, c'est à vous de de trouver un système. Et si vous voulez, même, vous pouvez tout cocher, c'est-à-dire réglementation et technique. Je vois pas trop l'intérêt, mais on peut le faire. Ça marche. Ce qui est important aussi dans cette version-là, et on va le voir ici, vous décochez ici le malus, puisque on va considérer que vous allez passer l'examen après le 7 juin. Et ici, vous mettez 30 minutes. Voilà, qui n'est pas automatique. Ça se met pas automatiquement comme dans la version Windows qui sait que c'est des questions de réglementation ou de technique et donc qui adapte le temps. Et ici vous choisissez aussi le nombre de questions, vous pouvez choisir autre chose que 20, ici vous allez vous pouvez définir ce que vous voulez ainsi que le temps. Ici, le compte à rebours, c'est pour savoir combien de temps il vous reste. Voilà, c'est plus. Enfin, je pense que c'est plus intéressant de savoir combien de temps il reste. Pour ceux qui commencent, qui débutent, ils peuvent afficher les réponses. Je ne vois pas l'intérêt, mais ça permet d'afficher les réponses tout de suite. Et les commentaires, donc quelque part, on... Quand il y a un calcul, on explique la manière d'y arriver. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de le mettre. Question automatique suivante, je ne vois pas trop non plus. C'est-à-dire que dès que vous avez répondu, ça passe à la question suivante sans cliquer sur suivant. Voilà, c'est si vous voulez. Mais en tout cas, pour le jour de l'examen, il faut cliquer sur question suivante pour passer à la question suivante. Voilà, donc une fois que vous avez tout déterminé, eh bien, maintenant il y a les contributeurs, tiens, j'avais pas fait gaffe. C'est une nouveauté, ça. On peut avoir la liste des contributeurs ici. Qui n'était pas. Enfin, c'est une nouvelle. J'avais pas vu cette. Regardez. Ah ben voilà. Donc si tous ceux qui m'ont envoyé leur compte rendu là, alors ils sont triés, je ne sais pas par quel ordre. Aucune idée. Ben je ne sais pas. En tout cas. Ah, par ordre de date décroissante, d'accord. Donc ce sont les derniers avec ici leurs indicatifs. Tous ceux qui m'ont envoyé leur compte rendu, qui sont donc mentionnés dans cette liste des contributeurs. Ce que je n'avais pas encore vu. Et donc ça a été fait tout récemment, ça. Donc voilà, commencer le réglage. Commencer l'épreuve, pardon. Eh ben on y va. Donc ici, c'est pas exactement comme ça que c'est présenté sur le logiciel ANFR, mais voilà. Ici, en tout cas, vous n'avez pas. Ici, là, ça vous rappelle les questions auxquelles vous avez déjà répondu. Et ici, donc, vous avez la question qui est posée. Voilà. Et donc. On demande ici la valeur normalisée de la puissance minimale à retenir pour P. Alors, cette question-là, elle est très tordue. En fait, les résistances, elles ont une puissance maximum qu'elles peuvent dissiper compte tenu de leur taille. Et donc là, il va falloir calculer la puissance dissipée par cette résistance compte tenu de la valeur de la résistance et de la tension. Donc on va chercher la formule qui va bien pour calculer la puissance du coup dissipée par cette résistance, et il faudra choisir la valeur juste au-dessus de la puissance dissipée, parce que évidemment si vous choisissez une puissance inférieure, bah, votre résistance elle va pas résister longtemps entre guillemets. Alors, et là, même chose, on peut enregistrer la question pour revenir. Je ne vais pas présenter tous les modules, mais pour les questions qui vous posent problème, vous pouvez l'enregistrer pour revenir dessus après. Et encore une fois, ça, c'est si vous n'effacez pas votre historique de navigation. Alors, on va passer sur la webcam pour vous montrer ce que je vais utiliser comme formule. Donc là, j'ai la puissance, la résistance et l'intensité. Donc j'ai puissance, résistance, intensité. Non, tension. Donc c'est celle-là. Puissance, résistance, tension. Et donc, c'est cette formule, la P égale U2 sur R, d'ailleurs. Un R qui est très moche. Voilà. P égale U2 sur R, que je vais utiliser. Et donc, voilà, P égale U2 sur R. Donc, U2, c'est 12 fois 12. Alors, on 12 fois 12 divisé par 1800. Et ça me donne donc 8 10 puissance moins 2. Donc ça me donne 80 milliwatts. 80 milliwatts. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? P égale U2 sur R. Donc je peux utiliser une 250 milliwatts. Puisque c'est 80 milliwatts, donc ça sert à rien de mettre une grosse résistance. Donc ça va être 250 milliwatts. Quelle est la capacité équivalente? Donc j'ai deux capacités là en série. Donc je vais utiliser produit sur somme. Donc ça me fait 50 divisé par 15. Et 50 divisé par 15, égale, ça me fait 3,33. Donc 3,33 nanofarads. D'ailleurs, si on regarde bien, 15, c'est pas 15 nanofarads, c'est pas possible. 2 nanofarads, ça me semble trop peu, et 0,3 encore moins. Là, à la limite, on pourrait hésiter entre le 2 nanofarads et le 3,3 nanofarads. Mais le 2 me semble trop petit. Ça, c'est du... Quand on a enfin, l'habitude de bricoler, à un moment où on sent plus facilement les valeurs. En l'occurrence, par calcul, donc c'est produit sur somme, donc produit 50 fois 10 divisé par la somme, 10 plus 5, 15. Donc 50 divisé par 15, ça me fait 3,3. Quelle est la longueur d'onde d'une fréquence de 50 MHz? Alors là, deux solutions, soit on connaît la longueur d'onde de la bande des 50 MHz, ou alors on prend la calculette et on fait 300 divisé par la fréquence en MHz, et ça me donne 6 mètres. Quelle est la tension aux bornes du condensateur? Alors là, voilà, c'est une question, enfin, pas tordue, mais pas aussi évidente que ça. Premier point, déjà, on va calculer la tension que l'on a ici au secondaire. Tension au secondaire, c'est donc 300 volts divisé par 3300 spires multiplié par 220 spires. D'accord? Et donc, je fais 300. Je divise par 3300 et je multiplie par 220. Et ça me donne donc 20. Donc, en sortie, ici, j'ai 20 volts. Le fait ici que j'ai une diode de redressement, donc j'ai 20 volts efficaces. Cette diode de redressement, ici, elle va faire en sorte que je ne garde que la partie, que l'alternance positive. Et derrière, le condensateur va faire en sorte que cette tension efficace, donc de 20 volts efficace, parce qu'évidemment, mes 300 volts ici, ce sont des volts efficaces. Donc ces 300 volts vont me donner ici 20 volts efficaces, mais avec juste une alternance positive. Et le fait qu'il y ait le condensateur, là, ça va me transformer ma tension efficace en tension maximum. Et donc, ces 20 volts, je les multiplie par 1,414 et ça me donne donc 28 volts. Voilà. Comment se nomme la tension 72 volts? Donc les 72 volts se calculent d'ici à ici. D'accord? Donc ça, c'est d'une tension qu'on appelle crête à crête. Ici, s'il n'y avait que cette tension-là et qu'on mesure entre le 0 ici et cette tension-là, ça serait une tension crête. Là, c'est une tension crête à crête. Le terme... Il est assez parlant. Suivant. Vous remarquez qu'ici, à chaque fois, on coche les cases au fur et à mesure du questionnaire. Résistance équivalente de deux résistances, ici, en parallèle, donc 1,2 kΩ et 1000 ohms, donc 1 kΩ. Donc quand j'ai deux résistances en parallèle comme ça, grosso modo ça va être un tout petit peu moins de la moitié que la plus petite. Et donc, donc ça peut être que ça. Ça peut pas être supérieur. Donc là, supérieur, on a, on en a deux là, qui sont supérieurs, 2200 ohms et 5,45 kΩ. Donc ça peut pas être ça. 820, c'est pas suffisamment faible. Mais 545, ça me va bien parce que c'est plus petit que la moitié de la plus grande ou plus grand que la moitié de la plus petite. Donc voilà, le 545 me va bien. Mais on pourra tout à l'heure faire le calcul, quoi qu'on peut le faire tout de suite, hein, produit sur somme. Donc le produit, c'est 1000 multiplié par 1200. Et je divise par 2200. Et ça me donne effectivement 5,45 10 puissance 2, donc 545,5. La tension de calibre du voltmètre est de 20 volts. Quelle est l'intensité de déviation maximum du galvanomètre? Alors, donc l'ensemble de la résistance de mon instrument de mesure, là, c'est donc 19 900 ohms plus 100 ohms, donc 20 kilo ohms. 20 kilo ohms et la tension de calibre est de 20 volts. Donc ici, entre ma résistance là et le bout ici de mon galvanomètre, ici j'ai 20 volts. Okay. Et donc lorsque l'aiguille va aller au maximum, ça voudrait dire que si j'ai 20 volts sur une résistance qui fait 20 kΩ, ça veut dire que j'ai 1 mA qui passe dans mon galvanomètre. Hein. I est égal à U sur R. U 20 volts. R 20 000 ohms, donc 20 divisé par 20 000, ça me donne 1 millième, et 1 millième, c'est donc 1 milliampère. Voilà, c'est avoir savoir se débrouiller avec les multiples et sous-multiples sans sortir sa calculette. Quel type de modulation permet de recevoir ce récepteur? Alors, ici j'ai un mélangeur de produits et ici un BFO. Donc, quand on voit ces deux termes-là, mélangeur de produits et BFO, on est dans un récepteur BLU ou Morse. Et là, Morse n'étant pas, ces doubles n'étant pas proposés, je choisis BLU. Oh, il y a un truc un peu similaire qui est déjà sorti. Un transistor bipolaire est composé de... Alors quoi? De un drain, une source, un collecteur, une base, un émetteur, une gâchette, une porte, une anode. Alors j'ai besoin de... un émetteur, donc le 5, un collecteur, le 2, donc c'est 3, 5, et une base 4, donc c'est 3, 4 et 5. 3, 4 et 5, le voilà. Je passe à la question suivante. Alors celle-là, je vous propose de la faire plutôt à la fin, d'autant plus. Ah non, c'est une question d'examen, en plus, mais qu'une question très ancienne, parce que quand on voit le numéro, là, c'est une question assez ancienne. Donc, voilà. Là, on est plutôt dans les 800 en ce moment. Donc, pour vous donner une idée de l'évolution de la base de données. Et donc on va voir ça Après, pour l'instant, je passe parce que il y a un peu d'explication. Donc, ça sera la numéro 10. Alors, quel est l'étage marqué point d'interrogation ? Alors, ça, c'est encore une question assez tordue parce qu'en fait, c'est un synoptique, certes, mais ce n'est qu'une partie du synoptique, ce qui n'est pas indiqué. Généralement, dans les synoptiques, dans les schémas, dans les vrais schémas professionnels, quand c'est un extrait, on met des petits points, des pointillés, pour montrer qu'il manque quelque chose. Là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc la CAG, elle va chercher, donc elle est CAG, donc on est dans un récepteur ici en modulation d'amplitude. Et je vais chercher la tension ici de mon signal, et cette tension de mon signal, je la ramène ici sur un étage avant. C'est surtout pour faire en sorte que ce système-là me permet d'avoir continuellement la même tension ici en sortie sur mon signal audio, quelle que soit la puissance du signal ici qui arrive à l'antenne. Parce que si j'ai un signal fort, ma CAG là va faire en sorte que cet étage-là amplifie moins que lorsque j'ai un signal faible. Et donc, cette CAG, c'est une contre-réaction, en fait, sur un étage qui va se trouver avant et généralement proche de l'antenne. Alors, soit l'ampli RF, ici, qui est donc un ampli à gain variable, ou alors sur une fréquence intermédiaire. Donc, on cherche étage RF ou étage FI, et c'est l'étage RF qui est opposé. Ça aurait pu être aussi étage FI. Puisque ici, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a entre cet étage-là et la détection. Enfin, il se passe des trucs, mais on ne sait pas lesquels. Combien de dB font un rapport de puissance de 800 ? Alors, combien de dB font un rapport de 800. Alors, soit on utilise la calculette, soit on utilise son, encore une fois, ses quelques connaissances des décibels. Donc, le 8 correspond à une unité de décibels de 9, et les deux zéros derrière, c'est la dizaine de décibels. Donc, si j'ai deux zéros, ça commencera par 20, et comme j'ai le 8, ça finira par un 9, donc ça me fait 29 décibels. Et sinon, on peut le faire aussi à la calculette, mais voilà, donc à la calculette. Alors, il faut que je fasse donc 10 puissance, c'est où ? Puissance, ah ben non, tac, j'ai pas pris le bon truc. À flûte 10 puissance 80. Non, c'est pas ça, c'est pas 10 puissance 80, c'est log de 80. Oula, fatigué ce soir. Alors, log de 80. On va y arriver. 10 log. 10 fois log de 800. Hop, 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 hop. Voilà. Puis je ne vous ai pas passé la calculette, tout va bien. Je ne suis pas au milieu de ma forme ce soir. Donc, pour transformer un rapport de puissance en décibels, il faut utiliser donc la fonction log. Donc c'est 10 fois log de 800. Et ça va me donner mes décibels qui sont de 2,9 10 puissance 1. Et donc 2,9 10 puissance 1, ça fait 29,03, d'où mes 29 dB que j'avais calculé à la grosse avec ma petite formule magique, mes trois formules, hein, puisque 3 décibels correspond à un rapport de 2, 6 décibels à un rapport de 4 et 9 décibels un rapport de 8. Voilà, je reviens sur le... C'est ça que je voulais faire. Hop, suivant. Une belle résistance, là, qui n'a que 3 bagues, puisque la bague or ne sert à rien. Voilà, donc bleu, marron, violet, je compte sur mes doigts, le 0 je ne compte pas, donc noix ne mangez à rien ou je vous battrai, bleu 6, marron 1, violet, donc 6, 1, et le violet, donc ne mangez rien ou je vous battrez violemment, donc 7, donc c'est 6, 1 et 7, 0 derrière, donc 610 mégas. Hop. Suivant. Alors, capacité équivalente. Alors, j'ai ici 6 et 12 en série, donc il faut que je fasse produit sur somme. Donc ça me fait 6 fois 12 divisé par 18 égale 4. Donc 4 picofarades avec 3 picofarades ici en parallèle qui vont s'additionner. 4 plus 3, 7. 7 picos. Période d'un signal de 50 Hz, bah c'est 1 divisé par 50. 1 divisé par 50, ça me fait quoi? Ça me fait 2 puissance 10 moins 2. Donc ça me fait 20 millisecondes. 0,02 secondes, donc 20 millisecondes. Ordre de grandeur de la résistance du voltmètre. Alors là, en fait, c'est un ordre de grandeur, donc c'est pas une réponse absolue. Ce qui est important dans un voltmètre, c'est d'avoir la résistance interne la plus forte possible. Et donc, quand on a des résistances internes de 10 ohms, 0,01 ohm ou même 1 kilo ohm, c'est pas suffisant pour ne pas perturber le circuit, et donc il faut mieux avoir la résistance interne la plus forte possible, parce que ne serait-ce que celle-là, 1 kilo ohm, on voit bien qu'il y a, du coup, si je la mets en parallèle avec cette résistance-là, je vais avoir la moitié du courant qui va passer ici dans mon voltmètre. Ce qui va perturber complètement la lecture de mon circuit. Parce que du coup, la tension, elle est plus que de la moitié. Ça, c'est ma loi d'ohm. Et donc, mon voltmètre va m'indiquer n'importe quoi. Quel est le taux de modulation qu'on ne doit pas dépasser en AM? Celui-là, malheureusement, il faut le connaître, c'est 100%. On verra quand on fera le corriger, on pourra aller sur le cours en ligne pour mieux comprendre. Ici, c'est un pont de Wheatstone équilibré. Donc en fait, j'ai deux réseaux de résistance là. Et entre mes deux résistances ici, j'ai 0 volt. 0 volt ici, ça veut dire que j'ai le même rapport entre ces valeurs sur cette branche-là et la valeur sur cette branche-là. Ici, je vois que j'ai 5 fois plus de résistance ici sur ma deuxième résistance. Donc pour que mon pont soit équilibré, il faut qu'ici j'en ai aussi 5 fois plus. Donc ici, il faut que j'ai 10 kg ohms. Alors, sinon, il y a la méthode du calcul. Et la méthode du calcul, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle ici la diagonale, la deuxième diagonale, puisque ici, ça c'est votre valeur à calculer. Ici, vous êtes dans une histoire de rapport proportionnel, et pour faire en sorte que votre rapport continue à être proportionnel, il faut multiplier ici les deux valeurs de la, ce qu'on appelle la diagonale opposée. Ça, c'est la diagonale, la première diagonale, celle où vous avez votre valeur. Ici, la deuxième diagonale où il n'y a pas votre valeur. Donc, c'est la deuxième diagonale, donc 15 multiplié par 2, divisé par la valeur opposée. Donc, c'est 30 divisé par 10, et ce qui me fait bien mes 10 que j'avais ici trouvé de manière un peu intuitive. Donc 10. Suivant. Quelle est la tension secondaire? Donc, alors, le piège. Ici, vous avez une pile. Pile égale courant continu. Or, le transformateur, c'est une bobine. Et, enfin, une bobine, c'est un ensemble de bobines. Or, les bobines, elles fonctionnent avec le champ magnétique, qui lui ne peut être constitué que lorsque on fait changer, lorsqu'on change perpétuellement la valeur de la tension. Donc, ici, tel que c'est fait, ce que va faire votre transfo, tout simplement, il va chauffer. Il va rien faire, il va pas sortir de tension sur source secondaire, ou tout au moins très peu de temps, le temps que le courant se mettent en place dans le primaire. Et après, il ne se passera plus rien. Pourquoi? C'est qu'ici, il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de variation du champ magnétique qui va être appliqué ici au secondaire. Donc ici, vous allez avoir 0 volt. Mais si vous aviez un courant alternatif, ici, vous auriez une tension en sortie deux fois plus élevée qu'en entrée. Donc les 200 volts que vous avez là. Ça, c'est une question tordue, mais elle est de moi. Hein. 21 000, c'est moi, ça. C'est pas une question à NFR. Quelle autre propriété à la détection? Alors, quelle autre propriété à la détection? Est-ce que c'est un mélangeur, un filtre passe-bas, un ampli RF ou un désaccentuateur? Bah, la détection, c'est un mélangeur. Le détecteur de... Alors, plus exactement, c'est pas la détection, c'est le détecteur de produits. Qui sert aussi de détection et donc de démodulation pour la modulation d'amplitude. Donc c'est une question assez tordue, voilà. Mais en tout cas, ça a plus une fonction ici de mélangeur qu'autre chose. Puisqu'ici, encore une fois, j'ai un oscillateur local. Et donc ici, on va plutôt appeler ça un détecteur de produit qu'une détection. Mais en tout cas, du coup, si c'est un détecteur de produits, c'est bien un mélangeur. Je crois qu'on est revenu au début, non? Je l'ai déjà vu celle-là. Je pense qu'on l'a déjà vu. On en est où là du coup? Je sais pas. 19, non, elle n'est pas terminée encore. Je pensais l'avoir déjà vue, je vais la passer. Ah, on est à la fin. Question répondue, 19 sur 20, d'accord, donc on est à la fin. Donc voilà, combien nous reste-t-il? Ah bah il reste pas beaucoup de temps. Hein. On va terminer. Êtes-vous sûr? Oui. Alors, j'ai des réponses incorrectes, j'ai des réponses sans réponse. Voilà, et j'ai partout bien répondu. Alors, j'ai quoi, Total Technique? Ben voilà, 18 sur 20. Donc finalement, Valentin a mis à jour le logiciel. Voilà. Et donc maintenant, les points sont calculés sur 18 points. Sur 20 points, pardon. Donc là, maintenant, ça a été mis à jour. Je ne savais pas trop quand est-ce qu'il allait le faire. Et donc ça, c'était mis à jour. Voilà, je découvre en même temps que vous. Et donc là, vous pouvez revenir sur les questions sur lesquelles vous avez chuté, comme par exemple celle-ci, on n'avait pas répondu. Hop, nous y revoilà. Et donc là, vous avez donc le commentaire. Vous pouvez enregistrer la question. Alors, il faut que descendre un peu encore. Il n'y a pas assez de pages, de place. Ah, flûte. Voilà, bon. J'ai un peu de mal à y accéder. Vous pouvez enregistrer la question en cliquant ici, comme on avait vu tout à l'heure avec le logiciel examen. Donc, c'est fait, là. Ça a été enregistré. Et vous pouvez cliquer sur « Cours » ici pour arriver sur la partie du cours. Alors, ça met un certain temps, ça s'affiche, et on arrive sur la partie du cours qui est donc en ligne et qui va parler du sujet dont on parle. Donc, vous avez des formules et la manière d'y arriver. Donc on va fermer cette chose-là, parce que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre comment ça va fonctionner. Ben, on peut faire ça en deux fois. Voilà. Donc ici, vous avez un filtre passe-bas, puisque ici, le condensateur, il est en bas. Donc on vous donne ici une fréquence du signal, et on demande quelle est la tension de sortie. Donc on va commencer par calculer quelle est la fréquence de coupure de ce circuit. Donc la fréquence de coupure de ce circuit, quand on utilise cette belle formule là, on arrive à 99 kΩ. Donc on va l'arrondir pour faire simple à 100 kHz. 99 kHz, on l'arrondit à 100 kHz. Et donc ce 100 kHz, ça tombe bien, c'est la fréquence du signal. Donc ça veut dire que le filtre, là, c'est la fréquence de coupure du filtre. Or, on sait que la fréquence de coupure de ce genre de filtre, à la fréquence de coupure, pardon, ce filtre a une atténuation de 3 décibels. Donc, on divise par 2 la puissance. 3 décibels en puissance. Et quand on applique ça en tension, puisque ce qu'on vous demande, ce n'est pas la puissance, c'est la tension. Donc la tension, ce n'est que la racine carrée de 2. Et la racine carrée de 2, la racine carrée, pardon, de 4, puisque ici, c'est ça dont on va parler. La racine carrée de... Ah non, attendez. Racine carrée, j'ai 2 volts, enfin j'ai 2 watts, et donc transformé en volts, où il faut que je multiplie par 0. Alors attends, qu'est-ce que j'ai mis là? On est à la fréquence de coupure, où le signal est atténué de 3 décibels en sortie. Ouais. Le piège est que la puissance est divisée par 2, tandis que la tension n'est diminuée que de sa racine carrée. Et donc là, il faut utiliser 2 fois racine de 2, donc 2,83 volts, puisque P égale U2 sur R. Voilà, donc c'est 2,8 volts qu'il fallait répondre. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on reviendrait dessus tout à l'heure, parce que c'est un truc assez tordu. Et puis celle où on a mal répondu, c'est le code couleur. Pourquoi ? Le bleu, bah j'ai mal calculé. Ah ! Non ! Je me suis fait piéger. Regardez ici le code couleur. Les valeurs ici, en fait, la valeur de cette résistance, elle est montée à l'envers. Donc il faut, dans ce cas-là, très tordu, lire les codes couleurs, là, les anneaux de couleurs, dans l'autre sens. Puisque ici, ils sont mis, enfin, on lit les codes couleurs en positionnant les bagues le plus à droite possible ou le plus en haut possible. Donc, on les lit, du coup, dans ce sens-là. Donc, c'est violet, marron, bleu. Et donc, c'est donc 71 mégas et non pas 610 kilo-ohms. Je me suis fait piéger moi-même. Voilà. Encore une fois, on a répondu trop vite. Donc, il y a plein de pièges comme ça. Mais le principal, c'est que on est réussi l'examen et c'est le principal. Donc voici ici les réponses. Et puis pour le cours de F6KGL, ça marchera, ça renvoie sur le lien automatiquement. Par exemple pour les transpos ici, je clique ici et ça renvoie automatiquement sur le chapitre du cours concerné. Et ce cours, c'est exactement ce que vous avez en format papier. Donc voilà, je pense que il y a pas mal de choses à découvrir avec ce module. Ce qu'il y a aussi, donc, c'est l'historique. Donc là, c'est l'historique de tous les examens que vous avez passés. Les questions enregistrées, les quelques questions qu'on a enregistrées là tout à l'heure quand on a cliqué dessus. Et ici, la liste des questions, donc c'est la base de données de toutes les questions d'examen. Donc vous pouvez les filtrer ici, là c'est la première, mais il y en a des tas. Il y en a des tas et donc vous pouvez soit les grouper par 5, et vous voyez en tout il y en a 2277 des questions. Donc il y a deux techniques et de réglementation. Donc il y a de quoi faire. On va faire la dernière version. Alors quelques questions peut-être d'abord sur le chat. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si tu es presque OK pour la réglementation et la technique, tu peux tenter ta chance et au deuxième tour, tu as toutes les chances d'avoir la totale. Oui, effectivement. Vu ce qu'on entend parfois sur l'air, on peut penser que certains devraient réviser sérieusement s'ils devaient repasser l'examen. Alors, courage et optimisme. Ouais. Et donc, alors pour Fabien, qui n'était pas là au début du cours, c'est le dernier cours... Enfin, c'est... Le dernier cours enregistré pour l'examen, avec des examens blancs. Ensuite, jusqu'à fin juin, on va faire des exercices tous les vendredis soirs. des exercices de réglementation ou des exercices de technique en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Comme on avait pris beaucoup d'avance avec les différents confinements, couvre-feu et tout ça, généralement on arrive plutôt fin juin à boucler le programme. Là, on l'a bouclé très très rapidement. Et donc voilà pour la suite. Alors, je suis pas certain la semaine prochaine d'être là parce que comme c'est le week-end de l'Ascension, je pense que je ne serai pas là, je suis pas certain. Et puis le week-end d'après la Pentecôte, c'est certain, je ne suis pas là pendant deux week-ends. Donc on se reverrait au mois de juin maintenant. On se reverrait au mois de juin pour des séries de questions, des séries d'examen blanc avec examen, donc soit la partie réglementation, soit pour la partie technique. Voilà. Et la dernière chose, donc, c'est la version Android. Et donc, pour ça, je vais utiliser la webcam. Alors, la webcam qui est là. Hop. Et le portable qui est là, que j'ai mis. Je reviens dessus, voilà, hop, ah bah oui, alors là, il faut que je quitte, terminé, oui, hop, examen raté, c'est normal, home, voilà, donc, ça ressemble étrangement à la version web, donc vous avez les thèmes ici. Ensuite, vous avez d'abord les thèmes de législation. Donc, si vous voulez faire que de la législation, vous cliquez ici sur la coche et ça vous cache tout. Éventuellement, vous désélectionnez des trucs. Voilà. Ou vous cochez ici la technique, c'est ce que je vais faire. On peut tout cocher, tout décocher, etc. Le nombre de questions, 20. Le malus pour les mauvaises réponses, je décoche. Voilà. Je n'affiche pas les réponses, j'active le compte à rebours. Temps limité, je le mets à 30. Puisque c'est une... c'est de la technique, donc on peut mettre ce qu'on veut, hein. Bon, je le mets à 30, le temps limite, et on peut commencer l'épreuve. Voilà, donc je pense que ça doit, je sais pas trop de reflets, je pense pas, bon, c'est à peu près propre. La première question qui est assez tordue. À un moment de la journée, vous pouvez contacter aisément l'Europe entière, puis à partir d'une certaine heure, la propagation ne vous permet plus de contacter contacter la France. Quelle est la cause de cette disparition? Le rebond ne se fait pas sur les mêmes couches selon l'heure de la journée. Le niveau des parasites varie tout au long de la journée. Il y a plus de radioamateurs à l'écoute, de ce fait la puissance émise est répartie sur plus d'écouteurs. La variation de la propagation est liée à la température de l'air ambiant. Donc on sent bien que les trois dernières réponses sont assez farfelues, sauf peut-être la deuxième. Mais en tout cas, la bonne réponse devrait être Le rebond ne se fait pas sur les mêmes couches selon l'heure de la journée. Et je passe à la suivante. On demande la valeur du ROS. Donc j'ai deux puissances ici. Donc j'ai un rapport ici de 1 quart en termes de puissance. Ce qui veut dire qu'en termes de tension et donc de TOS, J'ai donc un rapport de 1 sur 2, hein, la racine carrée de 1 quart, donc 1 sur 2. Et donc le 0,5 de TOS correspond à quoi en ROS? Donc c'est 1 plus 0,5 divisé par 1 moins 0,5. Et donc ça me fait 1,5 divisé par 0,5, ça me fait 3 sur 1. Suivant. Quel est le mode de transmission qui est démodulé par un détecteur de produits? Le détecteur de produits, c'est de l'AM. Alors, le détecteur de produits, c'est de l'AM ou de la BLU. Allez, SSB. J'ai un peu peur. Suivant. À la sortie d'un mélangeur, on trouve deux fréquences, 10 et 18 mégas. Quelles sont les fréquences d'entrée? Donc là, c'est un peu tordu comme truc, encore une fois. Donc les deux fréquences d'entrée, alors une des premières fréquences d'entrée, ça serait la moyenne, je dirais, entre les deux. Donc c'est entre 10 et 18, ça me fait 14 mégas. Une des premières, la première fréquence d'entrée, 14 mégas. Et la deuxième, c'est donc 18, enfin, l'écart que j'ai entre les deux, c'est-à-dire 4 mégas. Donc 18 moins 14 ou 14 moins 10. Hein, donc en entrée, je vais avoir 14 et 4, ou 4 et 14. Résistance équivalente. Donc ici, j'ai deux résistances en parallèle. Donc ici, ça va me donner quelque chose comme donc 10, 20. Alors, on 10 fois 20 divisé par 30. Ça me donne 6,67 plus 7,5. Ça me donne donc 14,2. Est-ce que j'ai 14,2? J'ai 14, ça me va bien. Alors, tension aux bornes de la résistance R1. Donc ici, j'ai 10 volts sur R2. 10 volts et j'ai une résistance qui fait 1 kilo ohm. Ici, R1, elle fait 2 fois moins. Donc je vais avoir 2 fois moins de tension. Et donc je vais avoir 5 volts, puisque j'ai 10 volts sur ma première. Quel est le courant collecteur? Alors, le courant collecteur, j'ai donc courant d'émetteur 48 mA, 0,5 le courant de base. Le courant de base, lui, il va s'additionner avec le courant collecteur pour donner le courant émetteur. Donc, mon courant collecteur, c'est le courant émetteur moins le courant de base, donc 47,5 que j'ai coché par mes gardes, mais qui est la bonne réponse. Alors, question tordue, alors est-ce que c'est moi celle-là ou pas? Elle est de moi. 21 000, elle est de moi. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc ça, c'est une triode. Donc, il y a trois grilles. Donc, la cathode, l'anode et la grille. Ici, il y en a 5, donc c'est une pentode. Et la 3, il y en a 4, donc c'est une tétrode. Donc, un triode, deux pentodes, trois tétrodes. Alors, triode, pentode, tétrode. Donc, c'est ça. Triode, pentode, tétrode. faut connaître le grec en plus, hein, triode 3, pentode 5, tétrode, hein, donc tétra 4, hein, et penta 5. Trio, on comprend que c'est 3. Il n'y a pas trop de... En grec et en latin, c'est le même mot. Quelle est la fréquence de coupure de ce filtre? Donc la fréquence de coupure de ce filtre, c'est donc 1 divisé par 2pi RC. Donc c'est 1 divisé par, je l'ouvre ma parenthèse, 6,28 pour faire 2pi, fois R, 25 kΩ, et multiplié par C, 5 multiplié par 10 puissance moins 6, puisque ce sont des microfarades. Exé. Ah, qui va pas? Il y a un truc qu'elle n'a pas aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, je vais pas fermer un peu de parenthèse. Bah, si. Alors. 6, 28, 26, à 35. Qu'est-ce que j'écris là? Oui. Alors, suppresse, 10 puissance 3, et pas 35. Qu'est-ce qui va pas? Alors, hop. Alors, multiplié par 5, j'avais oublié le multiplier, ça doit être ça. Voilà, et puis entre-temps, le portable, il s'est mis en veille. Et donc, c'est 1,274 Hz, donc 1,27 Hz, non, les gros doigts, j'ai un peu de mal. Voilà. Ici, l'impédance au primaire. Donc j'ai un rapport ici de 10, ce qui va me dire que j'ai un rapport du carré, donc de 100, dans mon rapport de transformation. Donc ici, en entrée, je vais avoir 400. Et haut. Voilà. Tension crête du signal, d'un signal de tension efficace 5 volts, donc tension crête, donc tension maximum, c'est pareil, hein, donc 5 fois 1,414, ça me donne 7,07. Suivant. Comment se nomme cette tension 75 volts? Alors, attention ici, quand on regarde la manière dont c'est présenté, on voit bien ici que c'est du crête à crête. Et donc, mes 75 volts, c'est bien 75 volts crête à crête, puisque j'ai bien cette tension ici entre mes deux extrémités. Donc, c'est bien la tension crête à crête. C'est peut-être présenté d'une manière un peu bizarre, mais voilà. C'est aussi fait pour ça, les questions d'examen, quelquefois c'est fait pour être, pour vous perturber. Dans ce récepteur BLU, comment s'appelle ce l'étage? Point d'interrogation. Donc ça, c'est le mélangeur équilibré. Hein, donc c'est pas le détecteur de produits, hein, c'est mélangeur équilibré que ça s'appelle. Et donc, ça va avec le BFO, donc l'oscillateur de battement de fréquence. C'est un peu... Normalement, un mélangeur équilibré, c'est plutôt fait pour de l'émission. Mais on peut aussi s'en servir en réception. Quel est le nom de l'étage repéré par le point d'interrogation? Donc ici, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est plutôt le modulateur, puisque nulle part on en parle. Il y a un étage audio, un étage HF, et entre les deux, ça serait bien qu'il y ait un étage de modulation. Voilà. En tout cas, ça ne peut pas être un des modulateurs. C'est pas un autre étage audio fréquence, puisqu'il y en a déjà un. Ni un ampli audio, il y en a déjà un aussi. Donc ça ne peut être que le modulateur. Mes résistances, mes valeurs de résistance qui sont dans le bon ordre là. Marqué. Donc c'est marron, gris, marron. Donc le marron c'est le 1. Le gris c'est le 8. Et donc le marron c'est le 1. Donc ça me fait 180. 180, ça en fait partie. On continue. Encore une autre résistance. Marron, noir, orange. Donc marron 1, noir 0, orange 3. 10 kilo-ohms. Un 3 pour 3, 0. 3 zéros qui suivent donc les déjà 1 et 0. Donc ça me fait bien mes 10 kilo-ohms. 10 kilo-ohms. Puissance dissipée dans R, donc P égale, qu'est-ce que je vais utiliser là, P égale 8, en puissance dissipée dans R, qu'est-ce que je vais utiliser, je prends mes antisèches, donc j'ai besoin de la de R, de I et de P. R, I, P. Voilà, c'est celle-là. P égale R, I au carré. Donc la puissance dissipée dans R, c'est R multiplié par I au carré. Et donc je fais à la calculette R 33. 1000 multiplié par 0,05, donc mes 5 milliampères, multiplié par 0,05. Et ça me donne 8,25 10 puissance moins 1, donc 0,825. Et donc les voilà, 0,825. Alors, ici, donc, avec un ampèremètre, donc j'ai 1 ampère le calibre, une résistance qui fait 9,9 ohms et un galvanomètre qui fait 0,01 ampère. Donc, il me faut faire passer le reste de l'intensité, c'est-à-dire 0,99 quasiment, 1 ampère, donc 100 fois plus, sur le shunt, et pour faire passer 100 fois plus de tension sur le shunt, il faut que je mette une résistance 100 fois plus faible que mon 9,9. Donc je fais 9,9 divisé par 100, c'est pas extraordinaire, ça me fait donc 9,9 10 puissance moins 2, donc 0,01 ohm, où ici c'est proche de 10 ohms, donc je divise par 100 et ça me donne donc 10, je divise par 100, donc c'est pas celle-là, c'est celle-là, c'est 0,1. À force, je commence à douter. 100, oui, donc c'est 0,1 dixième que je divise par 100, ça me donne 0,1. Suivant. Que fait la capacité d'un condensateur lorsque la distance entre les armatures est divisée par 2? Lorsque je rapproche finalement mes deux plaques de mon condensateur, puisque c'est ça qui se passe, hein, si je diminue par 2 la distance entre les deux plaques, je multiplie par 2 la valeur de mon condensateur. Donc mon condensateur est multiplié par 2. Et donc c'est 2 fois C. C'est compliqué, enfin c'est très tordu cette manière de présenter les choses, mais au moins on me l'a remonté comme ça, donc je pense que ça doit être la bonne présentation. Là, quelle est la valeur équivalente de deux bobines montées en série? Alors, on va supposer que les champs magnétiques de ces deux bobines ne sont pas couplés, sinon ça va être compliqué de calculer, et donc ça va faire 20 microampères, puisque ça va marcher comme microhenry, pardon, puisque ça va marcher comme pour les résistances. Voilà. On arrive à la fin. Et on est arrivé à la fin. Donc en 20 minutes, on est arrivé à la fin. Donc vous voyez, je pense que c'est relativement... quand on connaît bien toutes les formules, évidemment, et toutes les questions, je pense qu'on... J'ai pas trop utilisé ma calculette. Voilà, donc on peut finir dès maintenant, terminer l'examen, oui, et ben voilà, 60 sur 60, alors j'ai peut-être, alors moi j'ai pas fait de mise à jour du logiciel, peut-être qu'entre temps Maxime a fait le nécessaire, mais en tout cas voilà, en mettant une note sur 60, on a réussi à faire du 20 sur 20, donc voilà. Sans trop se compliquer la vie. Je repasse sur mon PDF. Alors, toc, il est là. Hop. Voilà, donc, encore une fois, si vous utilisez la version Windows, à partir du 7 juin, n'oubliez pas de corriger finalement le résultat, ce qu'il va falloir vivre avec, hein, tant qu'on n'a pas de solution, d'autres solutions. Et puis si vous utilisez les versions web et Android, c'est déjà fait, tout au moins pour la version web, c'est fait, Android, ça va être fait incessamment sous peu. Et donc voilà, vous êtes prêts pour passer l'examen. Et puis j'espère vous contacter rapidement à la suite. Et voilà, donc la conclusion, c'est à bientôt sur l'air. Encore une fois, bonne soirée à tous. Alors, pas la semaine prochaine, mais maintenant on va reprendre les cours en septembre depuis le début, depuis la partie réglementation. Et sinon, d'ici la fin de l'année, on fera, peut-être pas tous les vendredis soirs, mais assez souvent, des examens blancs sur examen, pour s'entraîner et voir toutes les questions qu'on peut avoir. Sur ce, encore une fois, bon week-end à tous et à bientôt sur l'air. Bye bye.